Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le kabbaliste espagnol du XIIIe siècle, Abraham Aboulafia, est une des figures les mieux connues et documentées du Moyen-Âge. À la fois prophète et maître spirituel, il introduit des méthodes de méditation proches de celles des soufis de l'islam. Impossible de consacrer une série de chemins de la connaissance à la Kabbale et aux kabbalistes sans parler de cette figure centrale à laquelle la dernière émission de la série était donc consacrée. S'il est moins connu que d'autres kabbalistes juifs, Abraham Aboulafia est cependant un de ceux qui ont le plus inspiré le judaïsme mystique par sa science de la combinaison des lettres.
Et commence par combiner d'abord les lettres du tétragramme, Yud et Vav et, seulement. Et observe chacune de ces combinaisons. Déplace-les et fais-les permuter comme une roue, c'est-à-dire en avant et en arrière, comme un rouleau de parchemin. Et ne t'arrête que si tu vois son sens augmenter à force de le combiner, et si tu crains de voir ton imagination se troubler et tes idées s'emporter. Et ensuite, après une interruption, tu y reviendras et tu le questionneras. Jusqu'à ce que tu en ressortes un secret de sagesse, ne le quitte pas. Ensuite, tu passeras au second nom, Adonai. Interroge-le sur son fondement et celui-ci te révélera son secret. Ensuite, tu relieras les deux noms, tu les combineras. Tu porteras toute ton attention et tu les interrogeras. Et ils te feront part de profonds secrets de sagesse. Puis, tu permuteras les lettres d'Élohim et lui aussi te révélera ses secrets de sagesse.
Professeur Hillel, de tous les chercheurs en littérature kabbalistique, vous êtes celui qui probablement connaît le mieux l'œuvre d'Abraham Aboulafia, puisque d'une part, c'est à lui que vous avez consacré votre thèse de doctorat il y a quelques années, mais c'est aussi grâce à toutes vos recherches que l'œuvre d'Abraham Aboulafia était relativement connue, même si, en effet, votre prédécesseur Gershom Scholem l'avait déjà découvert. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots d'Aboulafia, parce que il a quand même une caractéristique, c'est qu'il se considérait à la fois comme un prophète et un messie.
Oui, ce qui est différent entre Aboulafia et presque tous les kabbalistes dans le XIIIe siècle, même kabbalistes plus tardifs, ce n'est pas seulement un type de connaissance religieuse qui est kabbal. La kabbal est une technique mystique pour arriver à une expérience mystique très très puissante. On parlait de quelque chose de final, c'est-à-dire pour lui la Kabbale est la manière de transformation en fait, de l'âme humaine ou l'intellect humain dans Dieu. C'est une apothéose.
D'ailleurs, il considérait que la prophétie est la conséquence de la pureté intérieure d'un homme.
Oui, oui. C'est la prophétie, on fait une expérience entre la prophétie classique biblique, c'est-à-dire que quelqu'un a de transmettre un message divin, et il y a un aspect, une dimension plus mystique, c'est-à-dire un mode d'expérience qui quelqu'un est possédé, si vous voulez, par le divin, qui n'implique pas un message. C'est-à-dire, il y a deux aspects. Un aspect plus sémantique, plus clair. Qu'est-ce que le message? Très simple. Nous avons une technique de rédemption. Et cette technique est une technique linguistique de répétition de nom divin. Et ce message est le message le plus important d'Aboulafia pour le monde. Ce n'est pas seulement le juif, pour le monde.
Et, à côté de ça.
Mais à côté, il y a ce type d'une expérience unique qui ne peut être pas décrit, Et c'est une autre part de ce de la Kabbale. La Kabbale est une façon d'arriver à la expérience ultime ou extrême. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui diffère de la Kabbale classique, qui a été intéressée dans une vision théocentrique, que le Dieu a le centre de la Kabbale. Pour Aboulaf, il y a l'homme et le centre de la Kabbale. Le judaïsme était plus intéressé dans le Dieu, dans la société. Pour Aboulaf, il y a l'âme, ou l'intellect, ou l'expérience et le centre de gravitation.
Professeur Paul Fanton, Abraham Aboulafia est assurément une des personnalités les plus fascinantes et en même temps les plus curieuses du panorama des maîtres de la Kabbale. Et c'est en tout cas une figure mystique hors du commun.
Nous avons évoqué tout à l'heure l'année de sa naissance, 1240, l'an 40, c'est pour être plus précis, obnubile un petit peu la signification de cette date dans le calendrier juif, puisque nous réfléchissons en fonction de l'année civile. Or, 1240 correspond dans le calendrier juif à l'an 5000, c'est-à-dire nous sommes à l'aube
tout à fait raison de signaler, c'est important,
du sixième millénaire, c'est très important. Et déjà les textes traditionnels qui précèdent cette date l'imprègnent avec une signification toute particulière, voire même une signification messianique.
C'est ça.
Je crois devoir insister sur l'importance du renouvellement de la prophétie à cette époque.
Il y a en effet cette idée dans le judaïsme, c'est que la prophétie s'est arrêtée à un certain moment. La tradition orale dira même qu'elle est donnée désormais aux enfants et aux fous, et qu'elle doit se renouveler à un moment de l'histoire humaine. Alors il y a quand même quelque chose d'intéressant pour revenir à la personnalité d'Abraham Aboulafia, c'est qu'il parle exactement comme un prophète. Il parle à un moment donné, si on prend son texte et si on prend celui de Ézéchiel, Haïta ala yad Hashem, la main de Dieu fut sur moi, c'est exactement dans ces termes que Aboulafia commence ses textes.
Bon, vous m'aviez demandé tout à l'heure d'exprimer mon opinion personnelle sur le personnage. Je pense que c'était quelqu'un qui est arrivé à un grand degré d'inspiration et que, évidemment, il a adopté la parlance et la façon de s'exprimer des prophètes pour transmettre son message. Au-delà de la dimension légale du judaïsme, il a essayé d'instaurer ce que Elliot Wolfson, c'est un chercheur américain, appelait l'hypernomianisme, c'est-à-dire il est allé plus loin que la loi, plus loin que la halakha, pour réaliser à travers une discipline tout à fait particulière, une discipline contemplative, de réaliser l'état prophétique.
Alors c'est quand même un kabbaliste d'une importance exceptionnelle, et il y a deux, trois petites choses qui marquent sa personnalité. Un, c'est que, d'abord c'est un juif errant, il faut bien le dire, il va en Grèce, il épouse une femme, un mois après on ne sait plus ce qu'elle est devenue, puis il considère que la musique est essentielle comme technique d'extase. Et là, on a l'impression d'entendre les jeunes aujourd'hui, hein.
Alors, deux grandes différences par rapport aux autres personnalités kabbalistiques auxquelles nous sommes habitués, comme Nachmanide, comme Rabbi David de Poskiel.
Comme Cordovero.
Au Cordovero, ce sont des personnages statiques qui sont reconnus par leur communauté comme étant des autorités halakhiques. Or, Aboulafia n'en est rien.
Non seulement ça, mais il est en révolte contre tous les rabbins.
Il est en rupture par rapport, n'est-ce pas, aux plus grandes autorités juridiques de son époque, le Rashpa, Rabbi Shlomo ben Adaret de Barcelone. Et contrairement à ce grand érudit qui est établi, avec tout ce que cela implique de statique, à Barcelone, lui, Aboulafia, est un juif errant, comme vous l'avez dit, qui a pris le bâton de l'errance, qui l'a amené jusqu'en Terre Sainte.
Mais on a l'impression que cette errance est une philosophie pour lui.
Oui, alors c'est assez curieux, pour revenir au soufisme également, cette dimension existe, que, je sais pas, il y a une notion de ce qu'on appelle le siyaha. Oui. En hébreu,
le tourisme.
Tourisme. En arabe moderne, ça veut dire le tourisme.
Mais en fait, ça veut dire,
l'errance.
Que nous n'appartenons à aucun lieu et qu'on peut être aussi bien ailleurs qu'ici.
Que l'homme est un pèlerin dans ce monde et que son pèlerinage se traduit physiquement par son errance à travers le globe terrestre à la recherche des étincelles de sainteté. Donc, la deuxième caractéristique d'Abrafia qui étonne, c'est le fait qu'il est quand même l'auteur d'une œuvre absolument immense, qui se chiffre par des milliers de pages, et que jusqu'au XIXe siècle, pratiquement aucune lettre de cette œuvre n'a été publiée.
C'est curieux, quand même.
Alors que le Zohar, qui lui est postérieur, ou presque, disons, contemporain, a connu quelque chose comme 80 éditions à l'heure actuelle. Alors, c'est quand même très étonnant. Alors, moi, je pense que Abrafia est avant tout une figure ésotérique et que sa discipline, qui comportait beaucoup de rites, vous avez parlé tout à l'heure de la musique, il fait intervenir également la méditation des lettres, des incantations qui n'appartiennent pas à la prière canonique, la prière régulière. C'est quelque chose qu'on ne doit pas divulguer sur la place du marché. C'est pourquoi son œuvre est restée longtemps cachée et occultée.
J'aimerais qu'on termine cette série d'émissions sur Kabbale et Kabbalistes par l'histoire que chacun connaît, j'allais dire, sur Abraham Aboulafia, et en tout cas qui est une histoire qui a défrayé la chronique, puisque vous m'appreniez tout à l'heure hors micro qu'il y a eu des pièces qui ont été consacrées à cet épisode de sa vie. C'est qu'il est né en 1240 et il annonce à un moment donné qu'il veut rencontrer le pape en 1280. Racontez-nous d'abord cet épisode, puisque c'est lui qui le raconte en quelques lignes.
Et en fait, l'histoire est plus longue, c'est-à-dire que la première révélation d'Aboulafia à Barcelone, dans 1610, a été « Tu dois aller à Rome ». Et c'est une part d'une vision messianique. C'est-à-dire pour être, comment dire, reconnu comme Messie, tu dois confronter l'autre pouvoir, si vous voulez, exactement comme Moïse a allé à Pharaon. C'est le même, exactement la même symétrie, la même démarche. C'est-à-dire, tu peux devenir Messie, mais d'ignorer l'autre pouvoir. Tu dois confronter. Et c'est ce type d'information a devenu pour Aboulafia très très important entre 70 et 80. À 80, il a été déjà à Capua. Capua, c'est une petite place, quelques kilomètres de Rome. Et il a insisté de rencontrer le pape à août, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. C'est la nouvelle année juive. Et le pape avait des autres affaires plus urgentes, oui. Il a évité de rencontrer Aboulafia et il a quitté pour un petit palais qui se trouve au nord de Rome, qui s'appelle Soriano da Rimini. Et Aboulafia a insisté et il a arrivé à la...
Oui, mais entre-temps, le pape proclame qu'il est interdit à ce juif d'arriver, sans quoi il serait mis à mort.
Oui, oui, il a été, c'est la version d'Aboulafia, il a été dit que si tu t'approches, tu dois être brûlé. Et Aboulafia a insisté. Il a entré le palais. Et dans ce moment, le pape a mouru d'apoplexie. Si nous avons quelques rapports sur le pape, ce n'est pas quelque chose qui
alors, répond à Aboulafia. Alors, ce pape, c'est Nicolas III, il faut le savoir. Nicolas III, qui n'était pas favorable aux Juifs, il faut bien le dire.
Oui, mais ce n'est pas si terrible. Ce n'est pas un problème de confrontation entre Aboulafia et le pape sur la situation des Juifs. Ce n'est pas si clair. C'est-à-dire, Moïse a été intéressé de sauver les Juifs. C'est quelque chose de géographique. Tout le tribu doit quitter l'Égypte. Et c'est la manière dont Aboula a été lu. Comme une messie de type de Moïse.
Alors, d'autres considèrent que c'est plutôt... Il voulait convertir le peuple,
certains. Il y a une autre, je crois, une autre vision académique qui dit que c'était une mission. C'est une mission, oui. Non, c'est une mission. Aboulaf voulait convertir le pape. Je crois qu'Aboulaf est très excentrique, mais je crois que c'est plus excentrique que l'excentrique. Je ne crois pas
que là, vous êtes beaucoup plus dur. Vous dites qu'il ne pouvait pas vouloir convertir le pape à une religion contre laquelle lui-même était en révolte.
Oui, c'est le problème, mais qu'Aboulaf a été lu d'une façon simplistique. Il était un juif, mais le judaïsme rabbinique a été problématique pour Aboulaf et lui-même. Oui. Il avait une autre vision de judaïsme, quelque chose de plus spirituel, qui peut être, selon Aboulaf, accepté par chaque croyant. Quelque chose qui n'est pas rituel, qui n'est pas théologique dans un sens simplistique.
Est-ce que quelqu'un qui lirait cette aventure d'Abraham Aboulafia comme étant le résultat de l'œuvre d'un militant de l'amitié judéo-chrétienne, est-ce que cela vous gênerait?
Ce n'est pas rien à faire avec l'amitié. Ce n'est pas Aboulafia, n'est pas un type écuménique.
Oui.
C'est-à-dire, il n'est pas tolérant. Pour Aboulafia, il y a une religion. Cette religion, c'est une spiritualité. Qui n'importe pas si tu es juif ou non. C'est pas dire, nous pouvons parler avec le chrétien. Qui sommes-nous? Le « nous » est très, 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 très difficile de définir. Pour Aboulaf, il était une bête noire. Il a été une exception.
Oui.
Il n'est pas un représentatif du judaïsme classique. Le « nous » d'Aboulaf est plus compliqué, je crois.
Alors, en fait, la rencontre n'a pas lieu. Mais beaucoup d'historiens considèrent quand même qu'elle a eu lieu.
Oui, c'est je ne comprends pas pourquoi des historiens si sérieux ont inventé, en fait, une rencontre et avec des dialogues.
C'est ça.
Avec des dialogues, c'est incroyable. Simple, incroyable. Que ce n'est pas seulement de dire qu'il y a un petit faux. Que c'était une rencontre qui a été terminée par la mort du pape. Non. Nous avons dans le livre d'histoire juive, très sérieuse, le plus sérieux. Même la réplique de pape d'Aboulaf, c'est quelque chose de purement mythique. Et nous n'avons pas même de légende. C'est-à-dire, c'est une légende d'historien. Ce n'est pas que les historiens ont utilisé une légende. Ils ont inventé une légende.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça le fantasme que représente le pape et qu'il a toujours représenté pour les Juifs?
Oui, pour les Juifs européens, c'est le pape. Mais pour les autres Juifs, c'était le sultan. Pour les autres Juifs, c'était les parents. C'est-à-dire, nous avons toujours un autre pouvoir. Pour un peuple en exil, il y a toujours un pouvoir politique, religieux, qui les Juifs dépendent. Et c'est ce type de fascination avec l'autre grand pouvoir. Mais ce n'est pas le pape comme le pape. C'est-à-dire le pape comme le symbole de la religion majoritaire.
Alors, professeur Fanton, le kabbaliste en question, Abraham Aboulafia, disparaît après cette affaire. On n'entend plus parler de lui, on ne sait pas où il est mort, on ne sait pas ce qu'il a fait après cela. Comment expliquez-vous ceci?
Alors, il se retire dans un premier temps à Sicile, où il avait un cercle d'admirateurs, et il s'adonne à une discipline extrêmement curieuse, qui est une espèce d'amalgame, de combinaison entre la tradition de méditation des lettres, issu du livre de la création, un grand classique de la mystique juive, le Sefer Yetzirah, qu'il féconde avec la pensée, tenez-vous bien, la pensée philosophique de nul autre que Maïmonide. Donc il est entouré par un cercle de
disciples,
lesquels lui attribue une auréole presque messianique, ce qui déplaît à certains de ses contemporains, en particulier ce rabbi Salomon Ibn Adret de Barcelone, qui finit tout bonnement par l'excommunier.
Oui, il est excommunié.
Et c'est la raison pour laquelle ce prophète solitaire, proscrit, prend de nouveau le bâton de l'errance pour se retirer dans une petite île de la Méditerranée, Comatino, qui est près de Malte. Et on effectivement n'entend plus parler de lui après 1288, l'année durant laquelle il a rédigé son œuvre ultime, le Sefer Ha'ot, et on pense qu'il est mort vers 1290 dans l'obscurité. Mais on ne doit en aucune manière le sous-estimer, dans la mesure où sa discipline a continué à alimenter les sources de la mystique juive, d'abord lors de la floraison de l'école de Safed en Terre Sainte,
au
XVIe siècle, ensuite dans le chassidisme, jusqu'à l'époque moderne. Et moi-même, je peux vous témoigner, j'ai connu dans le Meacharim
des chassidim. C'est-à-dire le quartier religieux de Jérusalem.
Le quartier, le bastion de l'orthodoxie piétiste.
Des gens qui servent l'âme de lui.
Qui non seulement méditent l'œuvre de d'Abou Lahafia jusqu'à nos jours, mais qui se sont mis tout récemment à éditer, à publier les œuvres d'Abou Lahafia.
Est-ce que vous diriez, et c'est vraiment la dernière question, est-ce que vous diriez qu'il y a un courant aujourd'hui chez les kabbalistes, un courant qui est représentatif de l'œuvre d'Abou Lahafia?
Ah, absolument, c'est indéniable. Il existe d'abord à Jérusalem, mais au sein de certains mouvements hassidiques, comme le mouvement braslavien, un certain nombre de disciplines qui s'inspirent directement de l'œuvre d'Abou Lahafia, malgré les siècles d'excommunication de Herem et qui ont pesé sur son œuvre.
Recueille-toi seul dans une maison. Couvre-toi d'un châle de prière. Assieds-toi et ferme les yeux. Dépouille-toi de la matière comme si ton âme avait quitté ton corps et était montée au ciel. Après ce dépouillement, lis une Mishnah quelconque, celle que tu veux, à de nombreuses reprises, chaque reprise après l'autre de façon continue, très rapidement, aussi vite que tu le peux, en articulant bien et clairement, sans sauter un seul mot. Concentre-toi pour que ton âme se lie à l'âme du maître ancien évoqué dans cette Mishnah. Tu le pourras, en te représentant que ta bouche est un instrument exprimant les lettres de l'énoncé de cette Mishnah, et que les sons que tu fais sortir par l'instrument de ta bouche sont les étincelles de ton âme intérieure qui jaillissent et lisent cette Mishnah, et qu'elle est devenue un véhicule où se glisse l'âme de ce maître ancien. Cependant, si tu n'es pas encore apte à accéder à ce haut degré, il est possible qu'autre chose se produise. En effet, à cause de la course rapide de ta bouche, tu te fatigueras, et tu finiras par te taire sans même t'en rendre compte. Tu somnoleras, dormant sans dormir. Dans ce demi-sommeil, tu t'apercevras que l'on donne une réponse à tes questions de façon allusive ou clairement, et cela selon ta préparation. Mais si tu ne mérites de réussir aucune des deux expériences précitées, sache que tu n'y es pas encore apte et que tu n'es pas parvenu à te dépouiller suffisamment de la matérialité.
Professeur Hidel, malgré toutes les recherches que vous-même et d'autres avez menées, continuez de mener à propos de la Kabbale, vous continuez à penser que la Kabbale est aujourd'hui encore terra incognita. Pourquoi ?
C'est très simple, c'est le nombre de manuscrits kabbalistiques est énorme, qui n'ont été pas étudiés, ou même lire pour la première fois par des chercheurs. C'est-à-dire, nous avons une littérature très riche, quelque chose comme 10 000 manuscrits. C'est, nous avons étudié une petite part, peut-être 1 000. Je peux vous dire qu'il y a à Paris même quelques
bibliothèque, je ne parle pas de manuscrits, je parle de bibliothèque. Bibliothèque à Paris, avec des manuscrits kabbalistiques qui n'étaient pas étudiés par Osun.
Pourquoi ? Parce que les...
Parce qu'il n'y a pas de chercheurs. C'est très simple. Le nombre de chercheurs, c'est très, très limité. Le nombre de matériaux, c'est très, très grand. Et je peux vous dire qu'il y a à Paris, il y a quelques manuscrits uniques, totalement inconnus.
Nous arrivons au terme de ces 5 émissions au cours desquelles nous avons tenté d'éclairer quelques-uns des aspects de la Kabbale. Laissons à Henri Atlan, philosophe et professeur de médecine, le soin de conclure. Qu'est-ce qu'un professeur de médecine, philosophe par surcroît, biologiste de réputation internationale comme Henri Atlan, trouve vraiment dans l'étude des textes de la Kabbale ? Que lui apporte-t-il ?
Alors, d'abord, il ne faut pas singulariser l'étude des textes de la Kabbale par rapport aux autres textes de la tradition juive. Enfin, pour moi, à partir du moment où, pour des raisons personnelles, enfin liées à ma propre histoire, à l'histoire de mes parents, à l'histoire de notre traversée de la Seconde Guerre mondiale et des problèmes qu'on a pu rencontrer, enfin, qui étaient d'ailleurs beaucoup moins dramatiques que ceux qui ont pu être rencontrés par d'autres en Europe, eh bien, à partir du moment où il était devenu important pour moi de m'intéresser à la tradition culturelle et intellectuelle et mythologique et rituelle du judaïsme, il était normal aussi de ne pas m'arrêter simplement aux textes talmudiques de la Bible et du Midrash. Et il était tout à fait normal aussi d'aller dans ces textes-là qui, comme je disais tout à l'heure, finalement représentent une espèce d'accomplissement, enfin, puisque eux s'occupent d'un certain nombre d'aspects et des choses dont les autres textes ne s'occupent pas.
Mais que vous apporte-t-il ?
Bien, il m'apporte une certaine entrée dans... on peut dire la philosophie. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une philosophie différente de la philosophie grecque. Et bon, c'est une façon que j'ai trouvée, moi, extrêmement enrichissante d'entrer dans la philosophie et, par l'intermédiaire de la philosophie, d'avoir une attitude distancée, si vous voulez, critique par rapport l'exercice trop technique, si vous voulez, de la recherche scientifique. Enfin, bon, je pense qu'il est important que les méthodes scientifiques et de réflexion sur les mythes puissent exercer l'une sur l'autre une critique, qu'il y ait un va-et-vient critique, pas du tout un va-et-vient visant à les confondre, comme certains pensent pouvoir le faire, mais au contraire, un va-et-vient critique précisément pour acquérir une certaine distance par rapport aux deux, qui est une condition sine qua non, à mon avis, pour que ces deux traditions-là puissent s'enrichir l'une l'autre.
Est-ce qu'il suffit d'étudier la Kabbale, comme vous l'avez fait et comme vous le faites, pour être considéré comme kabbaliste ?
Non, non, je ne crois pas. Ce que la littérature kabbaliste elle-même appelle kabbaliste, si j'ose dire, bien, ce sont ceux qui ne se contentent pas d'étudier, mais qui essayent de pratiquer précisément les commandements en y projetant au maximum possible et dans le plus de détails possible ces kavanot, c'est-à-dire ces intentions qui, elles, se nourrissent en effet de ces textes.
C'était Kabbale et kabbaliste. Aujourd'hui, le pape et le kabbaliste Abou Lafia. Nos invités étaient Henri Atlan, professeur de médecine et philosophe, Paul Fanton, professeur à la Sorbonne, et Moshe Yidel, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Les lectures étaient faites par Jean Bollery. Mixage, Bernard Laniel et Antoine Anglade. Réalisation, Anne Fleury.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 février 2001. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site des Nuits par franceculture.fr.